Ces interrogations, qui se lisent si rapidement, étant entièrement écrites, les demandes aussi bien que les réponses prennent un temps énorme. C'est une des causes de la lenteur des instructions criminelles et de la durée des détentions préventives. Pour les petits, c'est la ruine. Pour les riches, c'est la honte. Car pour eux, un élargissement immédiat répare, autant qu'il peut être réparé, le malheur d'une arrestation. Voilà pourquoi les deux scènes qui viennent d'être fidèlement reproduites avaient employé tout le temps consumé par Asie à déchiffrer les ordres du maître, à faire sortir une duchesse de son boudoir et à donner de l'énergie à Madame de Sérisy. En ce moment, Camusot, qui songeait à tirer parti de son habileté, prit les deux interrogatoires, les relut et se proposait de les montrer au procureur général en lui demandant son avis. Pendant la délibération à laquelle il se livrait, son huissier revint pour lui dire que le valet de chambre de Madame la comtesse de Sérisy voulait absolument lui parler. Sur un signe de Camusot, un valet de chambre, vêtu comme un maître, entra, regarda l'huissier et le magistrat alternativement et dit « C'est bien à Monsieur Camusot que j'ai l'honneur. »« Oui, » répondirent le juge et l'huissier. Camusot prit une lettre que lui tendit le domestique et lut ce qui suit. « Dans bien des intérêts que vous comprendrez, mon cher Camusot, n'interrogez pas Monsieur de Rubempré. Nous vous apportons les preuves de son innocence afin qu'il soit immédiatement élargi. D. de Maufrigneuse, L. de Sérisy. » Post-scriptum brûlait cette lettre. Camusot comprit qu'il avait fait une énorme faute en tendant des pièges à Lucien, et il commença par obéir aux deux grandes dames. Il alluma une bougie et détruisit la lettre écrite par la duchesse. Le valet de chambre salua respectueusement. « Madame de Sérisy va donc venir ? » demanda-t-il. « On attelait, » répondit le valet de chambre. En ce moment, Coquart vint apprendre à M. Camusot que le procureur général l'attendait. Sous le poids de la faute qu'il avait commise contre son ambition au profit de la justice, le juge, chez qui 7 ans d'exercice avait développé la finesse dont est pourvu tout homme qui se mesurait avec des grisettes en faisant son droit, voulut avoir des armes contre le ressentiment des deux grandes dames. La bougie à laquelle il avait brûlé la lettre, étant encore allumée, il s'en servit pour cacheter les 30 billets de la duchesse de Maufrigneuse à Lucien et la correspondance assez volumineuse de Madame de Sérisy. Puis il se rendit chez le procureur général. Le palais de justice est un amas confus de constructions superposées les unes aux autres, les unes pleines de grandeur, les autres mesquines, et qui se nuisent entre elles par un défaut d'ensemble. La salle des pas perdus est la plus grande des salles connues, mais sa nudité fait horreur et décourage les yeux. Cette vaste cathédrale de la chicane écrase la cour royale. Enfin, la galerie marchande mène à 2 cloaques. Dans cette galerie, on remarque un escalier à 2 rampes, un peu plus grand que celui de la police correctionnelle, et sous lequel s'ouvre une grande porte à 2 battants. L'escalier conduit à la cour d'assises, et la porte inférieure à 2 secondes cours d'assises. Il se rencontre des années où les crimes commis dans le département de la Seine exigent 2 sessions. C'est par là que se trouvent le parquet du procureur général, la chambre des avocats, leur bibliothèque, les cabinets des avocats généraux, ceux des substituts du procureur général. Tous ces locaux, car il faut se servir d'un terme générique, sont unis par de petits escaliers de moulins, par des corridors sombres qui sont la honte de l'architecture, celle de la ville de Paris et celle de la France. Dans ces intérieurs, la première de nos justices souveraines surpasse les prisons dans ce qu'elles ont de hideux. Le peintre de mœurs reculerait devant la nécessité de décrire l'ignoble couloir 1 mètre de largeur où se tiennent les témoins à la cour d'assises supérieure. Quant au poêle qui sert à chauffer la salle des séances, il déshonorerait un café du boulevard Montparnasse. le cabinet du procureur général est pratiqué dans un pavillon octogone qui flanque le corps de la galerie marchande. Et pris récemment, par rapport à l'âge du palais, sur le terrain du préau, attenant au quartier des femmes. Toute cette partie du palais de justice est obombrée par les hautes et magnifiques constructions de la Sainte-Chapelle. Aussi est-ce sombre et silencieux. Monsieur de Granville, ce digne successeur des grands magistrats du vieux Parlement, n'avait pas voulu quitter le palais sans une solution dans l'affaire de Lucien. Il attendait des nouvelles de Camusot, et le message du juge le plongea dans cette rêverie involontaire que l'attente cause aux esprits les plus fermes. Il était assis dans l'embrasure de la croisée de son cabinet. Il se leva, se mit à marcher de long en long, car il avait trouvé le matin Camusot, sur le passage duquel il s'était mis, peu compréhensif. Il avait des inquiétudes vagues, il souffrait. Voici pourquoi. La dignité de ses fonctions lui défendait d'attenter à l'indépendance absolue du magistrat inférieur. Et il s'agissait dans ce procès de l'honneur, de la considération de son meilleur ami, de l'un de ses plus chauds protecteurs, le comte de Sérisy, ministre d'État, membre du conseil privé, le vice-président du conseil d'État, le futur chancelier de France, au cas où le noble vieillard qui remplissait ses augustes fonctions viendrait à mourir. Monsieur de Sérisy avait le malheur d'adorer sa femme, quand même. Il la couvrait toujours de sa protection. Or le procureur général devinait bien l'affreux tapage que ferait, dans le monde et à la cour, la culpabilité d'un homme dont le nom avait été si souvent marié malignement à celui de la comtesse. Ah, se disait-il en se croisant les bras, autrefois, le pouvoir royal avait la ressource des évocations. Notre manie d'égalité tuera ce temps-ci. Ce digne magistrat connaissait l'entraînement et les malheurs des attachements illicites. Esther et Lucien avaient repris, comme on l'a vu, l'appartement où le comte de Granville avait vécu maritalement et secrètement avec mademoiselle de Bellefeuille, et d'où elle s'était enfuie un jour, enlevée par un misérable. Au moment où le procureur général se disait « Camusot nous aura fait quelque sottise », le juge d'instruction frappa deux coups à la porte du cabinet. « Eh bien, mon cher Camusot, comment va l'affaire dont je vous parlais ce matin ?»« Mal, monsieur le comte. Lisez et jugez-en vous-même. » Il tendit les deux procès-verbaux des interrogatoires à monsieur de Granville, qui prit son lorgnon et alla lire dans l'embrasure de la croisée. Ce fut une lecture rapide. « Vous avez fait votre devoir, » dit le procureur général d'une voix émue. « Tout est dit. La justice aura son cours. Vous avez fait preuve de trop d'habileté pour qu'on se prive jamais d'un juge d'instruction tel que vous. » Monsieur de Granville aurait dit à Camusot, « Vous resterez pendant toute votre vie juge d'instruction. » Il n'aurait pas été plus explicite que dans cette phrase complimenteuse. Camusot eut froid dans les entrailles. « Madame la duchesse de Maufrigneuse, à qui je dois beaucoup, m'avait prié. « Ah, la duchesse de Maufrigneuse !» dit Granville en interrompant le juge. « C'est vrai, c'est l'ami de madame de Sérisy. Vous n'avez cédé, je le vois, à aucune influence. Vous avez bien fait, monsieur. » Vous serez un grand magistrat. » En ce moment, le comte Octave de Bauvan ouvrit sans frapper et dit au comte de Granville, « Mon cher, je t'amène une jolie femme qui ne savait où donner de la tête. Elle allait se perdre dans notre labyrinthe. » Et le comte Octave tenait par la main la comtesse de Sérisy, qui depuis un quart d'heure errait dans le palais. « Vous ici, madame ?» s'écria le procureur général en avançant son propre fauteuil. « Et dans quel moment ? Voici monsieur Camusot, madame, » ajouta-t-il en montrant le juge. « Bauvan, » reprit-il en s'adressant à cet illustre orateur ministériel de la Restauration, « attends-moi chez le premier président. Il est encore chez lui, je t'y rejoins. » Le comte Octave de Bauvan comprit que non seulement il était de trop, mais encore que le procureur général voulait avoir une raison de quitter son cabinet. Madame de Sérisy n'avait pas commis la faute de venir au palais dans son magnifique coupé à manteau bleu armorié, avec son cocher galonné et ses deux valets en culottes courtes et en bas de soie blanc. Au moment de partir, Asie avait fait comprendre aux deux grandes dames la nécessité de prendre le fiacre dans lequel elle était venue avec la duchesse. Enfin, elle avait également imposé à la maîtresse de Lucien cette toilette qui, pour les femmes, et ce qu'était autrefois le manteau couleur muraille pour les hommes. La comtesse portait une redingote brune, un vieux châle noir et un chapeau de velours dont les fleurs arrachées avaient été remplacées par un voile de dentelle noire très épais. « Vous avez reçu notre lettre, » dit-elle à Camusot, dont l'hébétement fut pris par elle comme une preuve de respect admiratif. « Trop tard, hélas, madame la comtesse, » répondit le juge, qui n'avait de tact et d'esprit que dans son cabinet contre ses prévenus. « Comment trop tard ?» Elle regarda M. de Granville et vit la consternation peinte sur sa figure. « Il ne peut pas, il ne doit pas être encore trop tard, » ajouta-t-elle avec une intonation de despote. Les femmes, les jolies femmes posées, comme les madames de Sérisy, sont les enfants gâtés de la civilisation française. Si les femmes des autres pays savaient ce qu'est à Paris une femme à la mode, riche et titrée, elles penseraient toutes à venir jouir de cette royauté magnifique. Les femmes vouées au seul lien de leur bienséance, à cette collection de petites lois, déjà nommées assez souvent dans la comédie humaine, le code femelle, se moquent des lois que les hommes ont faites. Elles disent tout, elles ne reculent devant aucune faute, devant aucune sottise. Car elles ont toutes admirablement compris qu'elles ne sont responsables de rien dans la vie, excepté de leur honneur féminin et de leurs enfants. Elles disent en riant les plus grandes énormités. À propos de tout, elles répètent ce mot, dit par la jolie madame de Beauvan, dans les premiers temps de son mariage, à son mari qu'elle était venue chercher au palais. « Dépêche-toi de juger et viens. » « Madame, dit le procureur général, Monsieur Lucien de Rubempré n'est coupable ni de vol, ni d'empoisonnement. Mais Monsieur Camusot lui a fait avouer un crime plus grand que cela. Quoi ? Demanda-t-elle. Il s'est reconnu, lui dit le procureur général à l'oreille, l'ami, l'élève d'un forçat évadé. L'abbé Carlos Herrera, cet Espagnol qui demeurait depuis environ 7 ans avec lui, serait notre fameux Jacques Collin. Madame de Sérisy recevait autant de coups de barre de fer que le magistrat disait de parole. Mais ce nom célèbre fut le coup de grâce. Et la morale de ceci, dit-elle d'une voix qui fut un soupir. Et, reprit M. de Granville, en continuant la phrase de la comtesse et en parlant à voix basse, que le forçat sera traduit aux assises et que si Lucien n'y comparait pas à ses côtés, comme ayant profité sciemment des crimes de cet homme, il y viendra comme un témoin gravement compromis. « À ça jamais !» s'écria-t-elle tout haut, avec une incroyable fermeté. « Quant à moi, je n'hésiterai pas entre la mort et la perspective de voir un homme que le monde a regardé comme mon meilleur ami, déclarer judiciairement le camarade d'un forçat. Le roi aime beaucoup mon mari. « Madame, dit en souriant et à haute voix le procureur général, le roi n'a pas le moindre pouvoir sur le plus petit juge d'instruction de son royaume, ni sur les débats d'une cour d'assises. Là est la grandeur de nos institutions nouvelles. Moi-même, je viens de féliciter M. Camusot de son habileté. « De sa maladresse, reprit vivement la comtesse, que les accointances de Lucien avec un bandit inquiétait bien moins que sa liaison avec Esther. Si vous lisiez les interrogatoires que M. Camusot a fait subir aux deux prévenus, vous verriez que tout dépend de lui. » Après cette phrase, la seule que le procureur général pouvait se permettre, et après un regard d'une finesse féminine, ou si vous voulez, judiciaire, il se dirigea vers la porte de son cabinet. Puis il ajouta sur le seuil, en se retournant, « Pardonnez-moi, madame, j'ai deux mots à dire à Beauvent. » Ceci, dans le langage du monde, signifiait pour la comtesse. « Je ne peux pas être témoin de ce qui va se passer entre vous et Camusot. » « Qu'est-ce que c'est que ces interrogatoires ?» dit alors Léontine avec douceur à Camusot, resté tout penaud devant la femme d'un des plus grands personnages de l'État. « Madame, répondit Camusot, un greffier met par écrit les demandes du juge et les réponses des prévenus. Le procès-verbal est signé par le greffier, par le juge et par les prévenus. Ces procès-verbaux sont les éléments de la procédure. Il détermine l'accusation et le renvoi des accusés devant la cour d'assises. « Eh bien, reprit-elle, si l'on supprimait ces interrogatoires ? Ah, madame, ce serait un crime qu'aucun magistrat ne peut commettre, un crime social. C'est un crime bien plus grand contre moi de les avoir écrits. Mais en ce moment, c'est la seule preuve contre Lucien. Voyons. « Lisez-moi son interrogatoire, afin de savoir s'il nous reste quelque moyen de nous sauver tous. Mon Dieu, il ne s'agit pas seulement de moi qui me donnerait froidement la mort. Il s'agit aussi du bonheur de monsieur de Sérisy. « Madame, dit Camusot, ne croyez pas que j'ai oublié les égards que je vous devais. Si monsieur Popinot, par exemple, avait été chargé de cette instruction, vous eussiez été plus malheureuse que vous ne l'êtes avec moi, car il ne serait pas venu consulter le procureur général. On ne saurait rien. Tenez, madame, on a tout saisi chez monsieur Lucien, même vos lettres. Oh, mes lettres ! Les voici, cachetées, dit le magistrat. La comtesse, dans son trouble, sonna comme si elle eût été chez elle, et le garçon de bureau du procureur général entra. « De la lumière, » dit-elle. Le garçon alluma une bougie et la mit sur la cheminée, pendant que la comtesse reconnaissait ses lettres, les comptait, les chiffonnait et les jetait dans le foyer. Bientôt, la comtesse mit le feu à ce tas de papiers en se servant de la dernière lettre tortillée comme d'une torche. Camusot regardait flamber les papiers assez niaisement en tenant à la main ses deux procès-verbaux. La comtesse, qui paraissait uniquement occupée d'anéantir les preuves de sa tendresse, observait le juge du coin de l'œil. Elle prit son temps, elle calcula ses mouvements, et avec une agilité de chatte, elle saisit les deux interrogatoires et les lança dans le feu. Mais Camusot les y reprit. La comtesse s'élança sur le juge et ressaisit les papiers enflammés. Il s'ensuivit une lutte, pendant laquelle Camusot criait « Madame, madame, vous attendez à... Madame !» Un homme s'élança dans le cabinet, et la comtesse ne put retenir un cri en reconnaissant le comte de Sérisy, suivi de messieurs de Granville et de Beauvent. Néanmoins, Léontine, qui voulait sauver à tout prix Lucien, ne lâchait point les terribles papiers timbrés, qu'elle tenait avec une force de tenaille, quoique la flamme eut déjà produit sur sa peau délicate l'effet des moxas. Enfin Camusot, dont les doigts étaient également atteints par le feu, parut avoir honte de cette situation. Il abandonna les papiers. Il n'en restait plus que la portion serrée par les mains des deux lutteurs et que le feu n'avait pu mordre. Cette scène s'était passée en un laps de temps moins considérable que le moment d'en lire le récit. De quoi pouvait-il être question entre vous et madame de Sérisy ? Demanda le ministre d'État à Camusot. Avant que le juge ne répondît, la comtesse alla présenter les papiers à la bougie et les jeta sur les fragments de ses lettres que le feu n'avait pas entièrement consumés. « J'aurais, dit Camusot, apporté plainte contre madame la comtesse. Et qu'a-t-elle fait ? Demanda le procureur général en regardant alternativement la comtesse et le juge. « J'ai brûlé les interrogatoires, » répondit en riant la femme à la mode, si heureuse de son coup de tête qu'elle ne sentait pas encore ses brûlures. Si c'est un crime, eh bien, monsieur peut recommencer ses affreux gribouillages. « C'est vrai, » répondit Camusot en essayant de retrouver sa dignité. « Eh bien, tout est pour le mieux, » dit le procureur général. « Mes chères comtesses, il ne faudrait pas prendre souvent de pareilles libertés avec la magistrature. Elle pourrait ne plus voir qui vous êtes. » Monsieur Camusot résistait bravement à une femme à qui rien ne résiste. « L'honneur de la robe est sauvé, » dit en riant le comte de Bauvan. « Ah, monsieur Camusot résistait !» dit en riant le procureur général. « Il est très fort. Je n'oserais pas résister à la comtesse. » En ce moment, ce grave attentat devint une plaisanterie de jolie femme, et dont riait Camusot lui-même. Le procureur général aperçut alors un homme qui ne riait pas. Justement effrayé par l'attitude et la physionomie du comte de Sérisy, Monsieur de Granville le prit à part. « Mon ami, lui dit-il à l'oreille, ta douleur me décide à transiger pour la première et seule fois de ma vie avec mes devoirs. » Le magistrat sonna. Son garçon de bureau vint. « Dites à monsieur de Chargebœuf de venir me parler. » Monsieur de Chargebœuf, jeune avocat stagiaire, était le secrétaire du procureur général. « Mon cher maître, reprit le procureur général en attirant Camusot dans l'embrasure de la croisée. « Allez dans votre cabinet. Refaites avec un greffier l'interrogatoire de l'abbé Carlos Herrera, qui n'ayant pas été signé par lui, peut se recommencer sans inconvénient. Vous confronterez demain ce diplomate espagnol avec messieurs de Rastignac et Bianchon, qui ne reconnaîtront pas en lui notre Jacques Collin. Sûr de sa mise en liberté, cet homme signera les interrogatoires. Quant à Lucien de Rubempré, mettez-le dès ce soir en liberté, car ce n'est pas lui qui parlera de l'interrogatoire dont le procès-verbal est supprimé, surtout après l'admonestation que je vais lui faire. La Gazette des Tribunaux annoncera demain la mise en liberté immédiate de ce jeune homme. Maintenant, voyons si la justice souffre de ces mesures. Si l'Espagnol est le forçat, nous avons 1000 moyens de le reprendre, de lui faire son procès, car nous allons éclaircir diplomatiquement sa conduite en Espagne. Corentin, le chef de la contre-police, nous le gardera. Nous ne le quitterons pas de vue, d'ailleurs. Aussi, traitez-le bien. Plus de mise au secret. Faites-le placer à la pistole pour cette nuit. Pouvons-nous tuer le comte, la comtesse de Sérisy, Lucien, pour un vol de 750 000 francs, encore hypothétique, et commis d'ailleurs au préjudice de Lucien. Ne vaut-il pas mieux lui laisser perdre cette somme que de le perdre de réputation? Surtout quand il entraîne dans sa chute un ministre d'État, sa femme et la duchesse de Maufrigneuse. Ce jeune homme est une orange tachée, ne la pourrissez pas. Ceci est l'affaire d'une demi-heure. Allez, nous vous attendons. Il est 3h30, vous trouverez encore des juges. Avertissez-moi si vous pouvez avoir un jugement de non-lieu en règle. Ou bien Lucien attendra jusqu'à demain matin. Camusot sortit après avoir salué. Mais madame de Sérisy, qui sentait alors vivement les atteintes du feu, ne lui rendit pas son salut. Monsieur de Sérisy, qui s'était élancé subitement hors du cabinet pendant que le procureur général parlait au juge, revint alors avec un petit pot de cire vierge et pansa les mains de sa femme en lui disant à l'oreille « Léontine, pourquoi venir ici sans me prévenir ?»« Pauvre amie, lui répondit-elle à l'oreille, « pardonnez-moi, je parais folle, mais il s'agissait de vous autant que de moi. Aimez ce jeune homme, si la fatalité le veut, mais ne laissez pas tant voir votre passion à tout le monde, » répondit le pauvre mari. « Allons, chère comtesse, » dit monsieur de Granville, après avoir causé pendant quelque temps avec le comte Octave. « J'espère que vous emmènerez monsieur de Rubempré dîner chez vous ce soir. » Cette quasi-promesse produisit une telle réaction sur madame de Sérisy qu'elle fondit en larmes. « Je croyais ne plus avoir de larmes, dit-elle en souriant. Ne pourriez-vous pas, reprit-elle, faire attendre ici monsieur de Rubempré? Je vais tâcher de trouver des huissiers pour nous l'amener, afin d'éviter qu'il soit accompagné de gendarmes, reprit monsieur de Granville. Vous êtes bon comme Dieu, répondit-elle au procureur général, avec une effusion qui rendit sa voix une musique divine. C'est toujours ces femmes-là, se dit le comte Octave, qui sont délicieuses, irrésistibles. Et il eut un accès de mélancolie en pensant à sa femme. En sortant, M. de Granville fut arrêté par le jeune Chargebœuf, avec lequel il causa pour lui donner des informations sur ce qu'il devait dire à Massol, l'un des rédacteurs de la Gazette des Tribunaux. Pendant que jolies femmes, ministres, magistrats, conspiraient tous pour sauver Lucien, voici quelle était sa conduite à la conciergerie. En passant par le guichet, le poète avait dit au greffe que M. Camusot lui permettait d'écrire, et il demanda des plumes, de l'encre et du papier, qu'un surveillant eut aussitôt l'ordre de lui porter, sur un mot dit à l'oreille du directeur, par l'huissier de Camusot. Pendant le peu de temps que le surveillant mit à chercher et à monter chez Lucien ce qu'il attendait, ce pauvre jeune homme, à qui l'idée de sa confrontation avec Jacques Collin était insupportable, tomba dans une de ces méditations fatales où l'idée du suicide, à laquelle il avait déjà cédé sans avoir pu l'accomplir, arriva à la manie. Selon quelques grands médecins aliénistes, le suicide, chez certaines organisations, est la terminaison d'une aliénation mentale. Or, depuis son arrestation, Lucien en avait fait une idée fixe. La lettre d'Esther, relue plusieurs fois, augmenta l'intensité de son désir de mourir, en lui remettant en mémoire le dénouement de Roméo rejoignant Juliette. Voici ce qu'il écrivit. « Ceci est mon testament. À la conciergerie, ce 15 mai 1830, je sous-signais, donne et lègue aux enfants de ma sœur, Madame Ève Chardon, femme de David Séchard, ancien imprimeur à Angoulême, et de Monsieur David Séchard, la totalité des biens meubles et immeubles qui m'appartiendront au jour de mon décès. Déduction faite des paiements et des legs que je prie mon exécuteur testamentaire d'accomplir. Je supplie Monsieur de Sérisy d'accepter la charge d'être mon exécuteur testamentaire. Il sera payé, premièrement, à Monsieur l'abbé Carlos Herrera, la somme de 300 000 francs. Deuxièmement, à Monsieur le baron de Nucingen, celle de 1400 000 francs, qui sera réduite de 750 000 francs, si les sommes soustraites chez Mademoiselle Esther se retrouvent. Je donne et lègue, comme héritier de Mademoiselle Esther Gobseck, une somme de 760 000 francs aux Hospices de Paris, pour fonder un asile spécialement consacré aux filles publiques qui voudront quitter leur carrière de vice et de perdition. En outre, je lègue aux hospices la somme nécessaire à l'achat d'une inscription de rente de 30 000 francs en 5%. Les intérêts annuels seront employés par chaque semestre à la délivrance des prisonniers pour dette, dont les créances s'élèveront au maximum à 2 000 francs. Les administrateurs des hospices choisiront parmi les plus honorables des détenus pour dette. Je prie Monsieur de Sérisy de consacrer une somme de 40 000 francs à un monument à élever au cimetière de l'Est à Mademoiselle Esther, et je demande à être inhumée auprès d'elle. Cette tombe devra être faite comme les anciens tombeaux. Elle sera carrée. Nos deux statues en marbre blanc seront couchées sur le couvercle, les têtes appuyées sur des coussins, les mains jointes et levées vers le ciel. Cette tombe n'aura pas d'inscription. Je prie Monsieur le comte de Sérisy de remettre à Monsieur Eugène de Rastignac la toilette en or qui se trouve chez moi, comme souvenir. Enfin, à ce titre, je prie mon exécuteur testamentaire d'agréer le don que je lui fais de ma bibliothèque. Lucien Chardon de Rubempré. Ce testament fut enveloppé dans une lettre adressée à M. le comte de Granville, procureur général de la cour royale de Paris, et ainsi conçu. Monsieur le comte, je vous confie mon testament. Quand vous aurez déplié cette lettre, je ne serai plus. Dans le désir de recouvrer ma liberté, j'ai répondu si lâchement à des interrogations captieuses de Monsieur Camusot que, malgré mon innocence, je puis être mêlé dans un procès infâme. En me supposant acquitté sans blâme, la vie serait encore impossible pour moi, d'après les susceptibilités du monde. Remettez, je vous prie, la lettre ci incluse à l'abbé Carlos Herrera, sans l'ouvrir, et faites parvenir à Monsieur Camusot la rétractation en forme que je joins sous ce pli. Je ne pense pas qu'on ose attenter au cachet d'un paquet qui vous est destiné. Dans cette confiance, je vous dis adieu, vous offrant pour la dernière fois mes respects et vous priant de croire qu'en vous écrivant, je vous donne une marque de ma reconnaissance pour toutes les bontés dont vous avez comblé votre défunt serviteur. Lucien de R. À l'abbé Carlos Herrera. Mon cher abbé, je n'ai reçu que des bienfaits de vous et je vous ai trahi. Cette ingratitude involontaire me tue, et quand vous lirez ces lignes, je n'existerai plus. Vous ne serez plus là pour me sauver. Vous m'aviez donné pleinement le droit, si j'y trouvais un avantage, de vous perdre en vous jetant à terre comme un bout de cigare. Mais j'ai disposé de vous sottement. Pour sortir d'embarras, séduit par une habile demande du juge d'instruction, votre fils spirituel, celui que vous aviez adopté, s'est rangé du côté de ceux qui veulent vous assassiner à tout prix, en voulant faire croire à une identité que je sais impossible entre vous et un scélérat français. Tout est dit. Entre un homme de votre puissance et moi, de qui vous avez voulu faire un personnage plus grand que je ne pouvais l'être, il ne saurait y avoir de niaiserie échangées au moment d'une séparation suprême. Vous avez voulu me faire puissant et glorieux. Vous m'avez précipité dans les abîmes du suicide. Voilà tout. Il y a longtemps que j'entendais bruire les grandes ailes du vertige planant sur moi. Il y a la postérité de Caïn et celle d'Abel, comme vous disiez quelquefois. Caïn, dans le grand drame de l'humanité, c'est l'opposition. Vous descendez d'Adam par cette ligne en qui le diable a continué de souffler le feu dont la première étincelle avait été jetée sur Ève. Parmi les démons de cette filiation, il s'en trouve de temps en temps de terribles à organisation vaste qui résument toutes les forces humaines et qui ressemblent à ces fiévreux animaux du désert dont la vie exige les espaces immenses qu'ils y trouvent. Ces gens-là sont dangereux dans la société comme des lions le seraient en pleine Normandie. Il leur faut une pâture. Ils dévorent les hommes vulgaires et broutent les écus des niais. Leurs jeux sont si périlleux qu'ils finissent par tuer l'humble chien dont ils se sont fait un compagnon, une idole. Quand Dieu le veut, ces êtres mystérieux sont Moïse, Attila, Charlemagne, Mahomet ou Napoléon. Mais quand ils laissent rouiller au fond de l'océan d'une génération, ces instruments gigantesques, ils ne sont plus que Pugatchev, Robespierre, Louvel et l'abbé Carlos Herrera. Doué d'un immense pouvoir sur les âmes tendres, il les attire et les broie. C'est grand, c'est beau dans son genre. C'est la plante vénéneuse aux riches couleurs qui fascine les enfants dans les bois. C'est la poésie du mal. Des hommes comme vous autres doivent habiter des antres et n'en pas sortir. Tu m'as fait vivre de cette vie gigantesque et j'ai bien mon compte de l'existence. Ainsi, je puis retirer ma tête des nœuds gordiens de ta politique pour la donner aux nœuds coulants de ma cravate. Pour réparer ma faute, je transmets au procureur général une rétractation de mon interrogatoire. Vous verrez à tirer parti de cette pièce. Par le vœu d'un testament en bonne forme, on vous rendra, monsieur l'abbé, les sommes appartenant à votre ordre, desquelles vous avez disposé très imprudemment pour moi, par suite de la paternelle tendresse que vous m'avez portée. Adieu donc. Adieu, grandiose statue du mal et de la corruption. Adieu, vous qui, dans la bonne voie, eussiez été plus que Ximénès, plus que Richelieu. Vous avez tenu vos promesses. Je me retrouve ce que j'étais au bord de la Charente, après vous avoir dû les enchantements d'un rêve. Mais malheureusement, ce n'est plus la rivière de mon pays où j'allais noyer les peccadilles de la jeunesse. C'est la Seine. Et mon trou, c'est un cabanon de la conciergerie. Ne me regrettez pas. Mon mépris pour vous était égal à mon admiration. Lucien. Déclaration. Je sous-signais, déclare rétracté entièrement ce que contient l'interrogatoire que m'a fait subir aujourd'hui M. Camusot. L'abbé Carlos Herrera se disait ordinairement mon père spirituel, et j'ai dû me tromper à ce mot, pris dans un autre sens par le juge, sans doute par erreur. Je sais que dans un but politique, et pour anéantir des secrets qui concernent les cabinets d'Espagne et des Tuileries, des agents obscurs de la diplomatie essayent de faire passer l'abbé Carlos Herrera pour un forçat nommé Jacques Collin. Mais l'abbé Carlos Herrera ne m'a jamais fait d'autres confidences à cet égard que celle de ses efforts pour se procurer les preuves du décès ou de l'existence de ce Jacques Collin. À la conciergerie, ce 15 mai 1830. Lucien de Rubempré. La fièvre du suicide communiquait à Lucien une grande lucidité d'idées, et cette activité de main que connaissent les auteurs en proie à la fièvre de la composition. Ce mouvement fut tel chez lui que ses 4 pièces furent écrites dans l'espace d'une demi-heure. Il en fit un paquet, le ferma par des pinces à cacheter, y mit, avec la force que donne le délire, l'empreinte d'un cachet à ses armes qu'il avait au doigt, et il le plaça très visiblement au milieu du plancher, sur le carreau. Certes, il était difficile de porter plus de dignité dans la situation fausse où tant d'infamie avait plongé Lucien. Il sauvait sa mémoire de tout opprobre, et il réparait le mal fait à son complice, autant que l'esprit du dandy pouvait annuler les effets de la confiance du poète. Si Lucien avait été placé dans un des cabanons du secret, il se serait heurté contre l'impossibilité d'y accomplir son dessein, car ces boîtes en pierre de taille n'ont pour mobilier qu'une espèce de lit de camp et un baquet destiné à d'impérieux besoins. Il ne s'y trouve pas un clou, pas une chaise, pas même un escabeau. Le lit de camp est si solidement scellé qu'il est impossible de le déplacer sans un travail dont s'apercevrait facilement le surveillant, car le Judas en fer est toujours ouvert. Enfin, lorsque le prévenu donne des craintes, il est surveillé par un gendarme ou par un agent. Dans les chambres de la pistole et dans celles où Lucien avait été mis par suite des égards que le juge voulut témoigner à un jeune homme appartenant à la haute société parisienne, le lit mobile, la table et la chaise peuvent donc servir à l'exécution d'un suicide, sans néanmoins le rendre facile. Lucien portait une longue cravate bleue en soie, et en revenant de l'instruction, il songeait déjà à la manière dont Pichegru s'était, plus ou moins volontairement, donné la mort. Mais pour se pendre, il faut trouver un point d'appui et un espace assez considérable entre le corps et le sol pour que les pieds ne rencontrent aucun soutien. Or, la fenêtre de sa cellule donnant sur le préau n'avait point d'espagnolette, et les barreaux de fer scellés à l'extérieur, étant séparés de Lucien par l'épaisseur de la muraille, ne lui permettaient pas d'y prendre un point d'appui. Voici le plan que sa faculté d'invention suggéra rapidement à Lucien pour consommer son suicide. Si la hotte appliquée à la baie ôtait à Lucien la vue du préau, cette hotte empêchait également les surveillants de voir ce qui se passait dans la cellule. Or, si dans la partie inférieure de la fenêtre, les vitres avaient été remplacées par 2 fortes planches, la partie supérieure conservait, dans chaque moitié, 2 petites vitres séparées et maintenues par les traverses qui les encadrent. En montant sur sa table, Lucien pouvait atteindre à la partie vitrée de sa fenêtre, en détacher deux verres ou les casser, de manière à trouver dans le coin de la première traverse un point d'appui solide. Il se proposait d'y passer sa cravate, de faire sur lui-même une révolution pour la serrer autour de son cou après l'avoir bien nouée et de repousser la table loin de lui d'un coup de pied. Donc, il approcha la table de la fenêtre sans faire de bruit. Il quitta sa redingote et son gilet, puis il monta sur la table sans aucune hésitation pour trouer la vitre au-dessus et celle au-dessous du premier bâton. Quand il fut sur la table, il put alors jeter les yeux sur le préau, spectacle magique qu'il entrevit pour la première fois. Le directeur de la conciergerie, ayant reçu de M. Camusot la recommandation d'agir avec les plus grands égards avec Lucien, l'avait fait conduire, comme on l'a vu, par les communications intérieures de la conciergerie, dont l'entrée est dans le souterrain obscur qui fait face à la tour d'argent, en évitant ainsi de montrer un jeune homme élégant à la foule des accusés qui se promènent dans le préau. On va juger si l'aspect de ce promenoir est de nature à saisir vivement une âme de poète. Le préau de la conciergerie est bordé sur le quai par la tour d'argent et par la tour Bombec. Or, l'espace qui les sépare indique parfaitement au dehors la largeur du préau. La galerie dite de Saint-Louis, qui mène de la galerie marchande à la cour de cassation et à la tour Bombec, où se trouve encore, dit-on, le cabinet de Saint-Louis, peut donner aux curieux la mesure de la longueur du préau, car elle en répète la dimension. Les secrets et les pistoles se trouvent donc sous la galerie marchande. Aussi la reine Marie-Antoinette, dont le cachot est sous les secrets actuels, était-elle conduite au tribunal révolutionnaire qui tenait ses séances dans le local de l'audience solennelle de la cour de cassation par un escalier formidable, pratiqué dans l'épaisseur des murs qui soutiennent la galerie marchande et aujourd'hui condamnée. L'un des côtés du préau, celui dont le premier étage est occupé par la galerie de Saint-Louis, présente au regard une enfilade de colonnes gothiques entre lesquelles les architectes de je ne sais quelle époque ont pratiqué deux étages de cabanons pour loger le plus d'accusés possible, en empâtant de plâtre, de grise et de scellement les chapiteaux, les ogives et les fûts de cette galerie magnifique. Sous le cabinet dit de Saint-Louis, dans la tour Bombec, tourne un escalier en colimaçon qui mène à ses cabanons. Cette prostitution des plus grands souvenirs de la France est d'un effet hideux. À la hauteur où Lucien se trouvait, son regard prenait en écharpe cette galerie et les détails du corps de logis qui réunit la tour d'argent à la tour Bombec. Il voyait les toits pointus des deux tours. Il resta tout ébahi. Son suicide fut retardé par son admiration. Aujourd'hui, les phénomènes de l'hallucination sont si bien admis par la médecine que ce mirage de nos sens, cette étrange faculté de notre esprit, n'est plus contestable. L'homme, sous la pression d'un sentiment, arrivé au point d'être une monomanie à cause de son intensité, se trouve souvent dans la situation où le plonge l'opium, le haschich et le protoxyde d'azote. Alors apparaissent les spectres, les fantômes. Alors les rêves prennent du corps. Les choses détruites revivent alors dans leurs conditions premières. Ce qui dans le cerveau n'était qu'une idée devient une créature animée ou une création vivante. La science en est à croire aujourd'hui que sous l'effort des passions à leur paroxysme, le cerveau s'injecte de sang et que cette congestion produit les jeux effrayants du rêve dans l'état de veille, tant on répugne à considérer la pensée comme une force vive et génératrice. Lucien vit le palais dans toute sa beauté primitive. La colonnade fut svelte, jeune, fraîche. La demeure de Saint-Louis reparut telle qu'elle fut. Il en admirait les proportions babyloniennes et les fantaisies orientales. Il accepta cette vue sublime comme un poétique adieu de la création civilisée. En prenant ses mesures pour mourir, il se demandait comment cette merveille existait, inconnue, dans Paris. Il était de Lucien. Un Lucien poète, en promenade dans le Moyen-Âge, sous les arcades et sous les tourelles de Saint-Louis, et un Lucien apprêtant son suicide. Au moment où M. de Granville avait fini de donner ses instructions à son jeune secrétaire, le directeur de la conciergerie se présenta. L'expression de cette physionomie était telle que le procureur général eut le pressentiment d'un malheur. « Avez-vous rencontré M. Camusot ?» lui dit-il. « Non, monsieur, » répondit le directeur. « Son greffier Coquart m'a dit de lever le secret de l'abbé Carlos et d'élargir M. de Rubempré. Mais il est trop tard. « Mon Dieu, qu'est-il arrivé ?»« Voici, monsieur, un paquet de lettres pour vous qui vous expliquera la catastrophe. Le surveillant du préau a entendu un bruit de carreau cassé à la pistole et le voisin de monsieur Lucien a jeté des cris perçants car il entendait l'agonie de ce pauvre jeune homme. Le surveillant est revenu, pâle du spectacle qui s'est offert à ses yeux. Il a vu le prévenu pendu à la croisée au moyen de sa cravate. Quoique le directeur parlât à voix basse, le cri terrible que poussa madame de Sérisy prouva que dans les circonstances suprêmes, nos organes sont une puissance incalculée. La comtesse s'entendit ou devina, mais avant que M. de Granville se fût retourné, sans que ni M. de Sérisy ni M. de Beauvan pussent s'opposer à des mouvements si rapides, elle fila comme un trait par la porte et parvint à la galerie marchande où elle courut jusqu'à l'escalier qui descend à la rue de la Barillerie. Un avocat déposait sa robe à la porte d'une de ces boutiques qui pendant si longtemps encombrèrent cette galerie où l'on vendait des chaussures, où l'on louait des robes et des toques. La comtesse demanda le chemin de la conciergerie. Descendez et tournez à gauche. L'entrée est sur le quai de l'horloge, la première arcade. Cette femme est folle, dit la marchande. Il faudrait la suivre. Personne n'aurait pu suivre Léontine. Elle volait. Un médecin expliquerait comment ces femmes du monde, dont la force est sans emploi, trouvent dans les crises de la vie de telles ressources. La comtesse se précipita par l'arcade vers le guichet, avec tant de célérité que le gendarme en faction ne la vit pas entrer. Elle s'abattit comme une plume, poussée par un vent furieux à la grille. Elle en secoua les barres de fer avec tant de fureur qu'elle arracha celle qu'elle avait saisie. Elle s'enfonça les deux morceaux sur la poitrine, d'où le sang jaillit, et elle tomba criant « Ouvrez, ouvrez !» d'une voix qui glaça les surveillants. Le porte-clés accourut. « Ouvrez ! Je suis envoyé par le procureur général pour sauver le mort !» Pendant que la comtesse faisait le tour par la rue de la Barillerie et par le quai de l'horloge, M. de Granville et M. de Sérisy descendaient à la conciergerie par l'intérieur du palais, en devinant l'intention de la comtesse. Mais malgré leur diligence, ils arrivèrent au moment où elle tombait évanouie à la première grille et qu'elle était relevée par les gendarmes descendus de leur corps de garde. À l'aspect du directeur de la conciergerie, on ouvrit le guichet. On transporta la comtesse dans le greffe, mais elle se dressa sur ses pieds et tomba sur ses genoux en joignant les mains. « Le voir, le voir ! Oh, messieurs, je ne ferai pas de mal, mais si vous ne voulez pas me voir mourir là, laissez-moi regarder Lucien, mort ou vivant. Ah, tu es là, mon ami, choisis entre ma mort ou... » Elle s'affaissa. « Tu es bon, » reprit-elle. « Je t'aimerai !» « Emportons-la, » dit M. de Beauvan. « Non, allons à la cellule où est Lucien, » reprit M. de Granville, en lisant dans les yeux égarés de M. de Sérisy ses intentions. Et il saisit la comtesse, la releva, la prit sous un bras, tandis que M. de Beauvan la prenait sous l'autre. « Monsieur, » dit M. de Sérisy au directeur, « un silence de mort sur tout ceci. Soyez tranquille. » répondit le directeur. Vous avez pris un bon parti. Cette dame, c'est ma femme. Ah, pardon, monsieur. Eh bien, elle s'évanouira certainement en voyant le jeune homme, et pendant son évanouissement, on pourra l'emporter dans une voiture. C'est ce que j'ai pensé, dit le comte. Envoyez un de vos hommes, dire à mes gens, cours de Harley, de venir au guichet. Il n'y a que ma voiture là. Nous pouvons le sauver, disait la comtesse, en marchant avec un courage et une force qui surprirent ses gardes. Il y a des moyens de rendre à la vie. Et elle entraînait les deux magistrats, en criant aux surveillants. Allez donc, allez plus vite. Une seconde vaut la vie de 3 personnes. Quand la porte de la cellule fut ouverte, et que la comtesse aperçut Lucien, pendu comme si ses vêtements eussent été mis à un porte-manteau, d'abord elle fit un bond vers lui pour l'embrasser et le saisir. Mais elle tomba la face sur le carreau de la cellule, en jetant des cris étouffés par une sorte de râle. 5 minutes après, elle était emportée par la voiture du comte vers son hôtel, couchée en long sur un coussin, son mari à genoux devant elle. Le comte de Beauvan était allé chercher un médecin pour porter les premiers secours à la comtesse. Le directeur de la conciergerie examinait la grille extérieure du guichet et disait à son greffier « On n'a rien épargné. Les barres de fer sont forgées. Elles ont été essayées. On a payé cela très cher. Et il y avait une paille dans ce barreau-là. » Le procureur général, revenu chez lui, fut obligé de donner d'autres instructions à son secrétaire. Heureusement, Massol n'était pas encore venu. Quelques moments après le départ de M. de Granville, qui s'empressa d'aller chez M. de Sérisy, Massol vint trouver son confrère Chargebœuf au parquet du procureur général. « Mon cher, lui dit le jeune secrétaire, si vous voulez m'être agréable, mettez ce que je vais vous dicter dans le numéro de demain de votre gazette. » À l'endroit où vous mettez les nouvelles judiciaires, vous ferez la tête de l'article. Écrivez. » Et il dicta ceci. On a reconnu que la demoiselle Esther s'est donnée volontairement la mort. L'alibi bien constaté de M. Lucien de Rubempré, son innocence, ont d'autant plus fait déplorer son arrestation qu'au moment où le juge d'instruction donnait l'ordre de l'élargir, ce jeune homme est mort subitement. Je n'ai pas besoin, mon cher, dit le jeune stagiaire à Massol, de vous recommander la plus grande discrétion sur le petit service que l'on vous demande. Puisque vous nous faites l'honneur d'avoir confiance en moi, je prendrai la liberté, répondit Massol, de vous présenter une observation. Cette note inspirera des commentaires injurieux sur la justice. La justice est assez forte pour les supporter, répliqua le jeune attaché au parquet avec l'orgueil d'un futur magistrat élevé par M. de Granville. « Permettez, mon cher maître, on peut avec 2 phrases éviter ce malheur. » Et l'avocat écrivit ceci. « Les formes de la justice sont tout à fait étrangères à ce funeste événement. L'autopsie, à laquelle on a procédé sur le champ, a démontré que cette mort était due à la rupture d'un anévrisme à son dernier période. Si M. Lucien de Rubempré avait été affecté de son arrestation, sa mort aurait eu lieu beaucoup plus tôt. Or, nous croyons pouvoir affirmer que, loin d'être affligé de son arrestation, ce regrettable jeune homme en riait et disait à ceux qui l'accompagnèrent de Fontainebleau à Paris qu'aussitôt arrivé devant le magistrat, son innocence serait reconnue. N'est-ce pas sauver tout ? Demanda l'avocat journaliste. Vous avez raison, mon cher maître. Le procureur général vous en saura gré demain, répliqua finement Massol. Ainsi, comme on le voit, les plus grands événements de la vie sont traduits par des petits faits paris, plus ou moins vrais. Il en est ainsi de beaucoup de choses, beaucoup plus augustes que celles-ci. Maintenant, pour le plus grand nombre, comme pour les gens d'élite, peut-être cette étude ne semble-t-elle pas entièrement finie par la mort d'Esther et de Lucien. Peut-être Jacques Collin, Asie, Europe et Paccard, malgré l'infamie de leur existence, intéressent-ils assez pour qu'on veuille savoir quelle a été leur fin. Ce dernier acte du drame peut d'ailleurs compléter la peinture de mœurs que comporte cette étude et donne la solution des divers intérêts en suspens que la vie de Lucien avait si singulièrement enchevêtrée, en mêlant quelques-unes des ignobles figures du bagne à celle des plus hauts personnages. Paris, mars 1846.